On va acclamer le Seigneur. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom tout-puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous encore ce matin. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Comment ne pas lui dire merci? Comment ne pas lui dire Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, au travers de sa parole, le Seigneur va encore nous parler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ne crains rien. Dieu est là toujours pour toi. Tant que tu lui fais confiance, il sera toujours avec toi. Il t'épargnera toujours les dangers. Il confondra tes ennemis et tu seras élevé au milieu de tes ennemis. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne crains rien, Dieu est avec toi. Shalom, shalom à toutes les personnes qui sont connectées. Shalom à toi, Alissa, depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de commencer, nous allons écouter une louange à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ses enfants, il n'oublie pas ceux qui le cherchent. Thank you. te porter quand tu tombes, il n'y a que Jésus. Qui peut essuyer tes larmes, il n'y a que Jésus. Qui peut te dire tous les jours, ne crains rien, je suis avec toi, il n'y a que Jésus. Alors accroche-toi à lui, quelles que soient les adversités, il ne t'abandonnera jamais. Même si les hommes se moquent de toi, dis-toi que tu as un Dieu qui est là pour toi. Et il va te relever au milieu de toutes ces personnes qui se sont moquées de toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Je disais qu'il ne faut jamais laisser la main de Dieu, quelle que soit l'adversité. Nous serons toujours combattus, nous ne serons jamais compris, écoutés, mais si on s'arrête sur ça, on oubliera les bienfaits de Dieu dans notre vie, alors qu'il a fait beaucoup de choses. Donc même si tu pleures aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Les gens te rejettent, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Dis-toi que ton Dieu t'aime et il t'aime comme tu es. Alléluia. La guérison vient de lui, la paix vient de lui. Alors, n'abandonne pas Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles tu passes. Sache que un jour, tu rendras service à quelqu'un. Un jour, les gens auront besoin de toi. Mais ne t'attends à rien. À rien de ces personnes. Il va arriver un jour où on se souviendra que tu as fait quelque chose et Dieu va te lever au milieu de ceux qui t'ont humilié. Alléluia, il va te relever. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cesse de pleurer. Bénis le Seigneur pour déjà le souffle de vie qu'il t'a accordé ce matin. Alors cesse de pleurer. Il n'est pas interdit de pleurer, mais ne demeure pas dans les pleurs. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis encore notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour son amour infini, pour sa présence dans nos vies, pour ce qu'il va faire encore aujourd'hui dans le cœur de chacun de nous. Dieu aime ses enfants, il n'oublie pas ses enfants. Je prie vraiment que ce message puisse toucher quelqu'un, puisse impacter quelqu'un pour la gloire du nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne suis que le canal par qui il passe. Vous et moi, nous sommes tous pareils. Nous confessons le même nom, Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre source de lumière. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons commencer notre culte. Le thème de ce matin, c'est « Tes bienfaits parleront un jour en ta faveur ». Tes bienfaits parleront un jour en ta faveur. Amen. Amen. Donc, notre texte est tiré du livre d'Esther, chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23. Esther, chapitre 2, à partir du verset 19 au verset 23, et l'apôtre Paul va faire la lecture au nom de Jésus. Amen.
Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu. Et elle subit les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi.
Amen.
Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons l'histoire d'Esther, cette juive qui était orpheline de père et de mère et qui a été élevée par son cousin Mardoché. Et Mardoché veillait sur sa nièce. Et il avait interdit à Esther de faire connaître son identité. Donc Esther faisait partie des filles qui avaient été choisies pour le roi. Et parmi toutes ces filles, c'est elle, Esther, qui avait été choisie. Mais il s'avère qu'on complotait pour le roi, alléluia, et Mardoché était là. Mardoché était là. Et il avait interdit, du moins il avait intervenu pour que cela n'arrive pas. Donc je vais refaire la lecture dans le livre de Esther, chapitre 2, à partir du verset 19. La seconde fois qu'on assemblait les jeunes filles, Mardoché était assis à la porte du roi. Esther n'avait pas fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi, Bigthan et Teresh, deux eunuques du roi, garde du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Donc il y avait un complot sur le roi Assyrus. Mais la parole de Dieu nous dit, Mardoché eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther. Donc si ce complot avait eu lieu, c'est clair que Esther aussi devait passer. Mais gloire soit rendue à Dieu que Mardoché était là. Alléluia. La chose en informant la reine Esther qui l'aurait dit au roi de la part de Mardoché. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois et cela fut écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Donc, je disais tout à l'heure que un jour tes bienfaits parleront en ta faveur. Les deux eunuques furent tués, mais le bienfait de Mardoché n'est pas resté sous silence. Ça a été écrit dans les livres des chroniques en présence du roi. Donc, Mardoché avait certainement oublié cela, ne pensant pas qu'un jour le roi va se rappeler de ça et va dire qu'est-ce qu'on a donné à Mardoché ou quel honneur on a fait à Mardoché pour ce bienfait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, des années peuvent passer. Ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Un jour, il y a toujours un jour dans la vie d'une personne, un jour, les gens se souviendront que tu as fait quelque chose de bien. Et Dieu dira, il a fait ça ou elle a fait ça. Qu'est-ce que vous lui avez donné? Comment l'avez-vous honoré? Nous le verrons toujours dans le livre d'Esther au chapitre 6. L'apôtre Paul fait la lecture.
Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect.
Amen.
Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques, on les lut devant le roi. et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigdan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus.
On s'arrête d'abord là. Amen. Vous voyez, un bienfait n'est jamais oublié. Le roi était troublé, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à Mardochée? Quel honneur on lui a donné? Il n'a pas dormi cette nuit. Un roi qui ne dort pas parce qu'il est troublé. Il y a quelque chose qui le trouble et il faut qu'il trouve ça. Alors il va dans son bureau et il regarde ce qui avait été sur les livres des chroniques et il va trouver ce que Mardochée avait fait. On continue la lecture.
Le roi dit, « Quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela ?»« Il n'a rien reçu, » répondirent ceux qui servaient le roi.
Amen. Donc le roi a demandé, il était troublé, mais quelqu'un qui a évité qu'on me tue, vous n'avez rien fait pour lui. Il faut vous dire qu'il y a quelqu'un qu'on appelait Aman. C'était le bras droit du roi. Personne ne pouvait passer devant lui. Et c'est lui qui avait même forcé au roi pour qu'on extermine le peuple d'Israël. Alléluia. Et donc, qui pouvait être? C'est-à-dire, après le roi, c'était lui. Donc, ce que Mardochée avait fait, ce n'était pas son problème. Il voulait tous les honneurs. Mais notre Dieu ne dort pas. Il veille sur ses enfants qui font du bien. Amen. On continue.
Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui.
Amen. Aman, le bras droit du roi, voulait qu'on pende Mardochée. Pourquoi? Parce que Mardochée, à chaque fois que Aman faisait son tour, tout le monde se levait pour le saluer. Mais Mardochée ne le faisait pas. Mardochée a dit qu'il se levera devant un seul Dieu, l'Éternel des armées, mais pas devant Aman. Donc Aman se sentait vraiment, il s'est dit, mais comment un juif comme ça peut me tenir tête pour ne plus avoir affaire à lui? Il faut qu'on le tue. Donc, il a dit au roi qu'on devait pendre Mardochée. Alléluia. Ne sachant pas que Mardochée avait fait quelque chose que Dieu allait récompenser. On continue.
Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer.
Amen. Donc le roi Assyrus pose cette question à Aman. Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman était persuadé que c'était lui qu'on allait honorer. My God. Bien-aimé, les années vont passer. Les gens vont se moquer de toi. Mais si tu as fait quelque chose de bien, Dieu ne va pas t'oublier. Ne dis pas qu'il t'a oublié. Ça peut prendre des mois, des années. Mais il y aura un jour où ceux qui t'ont fait du mal ne s'attendront pas à la bénédiction que tu vas recevoir. Mardochée ne s'est jamais agenouillé devant lui. Mardochée ne s'est jamais levé devant Aman. Mais Mardochée avait fait quelque chose qui avait touché le cœur de Dieu, le cœur du roi. J'ai envie de dire qu'il a eu la faveur de Dieu et il a eu la faveur de l'homme, c'est-à-dire du roi Assyrus. Mais Aman pensait que cette distinction lui serait donnée. On continue.
Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer?
Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il était le second du roi, c'était la main droite du roi. Tout ce qu'il disait au roi, le roi disait « Amen ». Donc il s'est dit « Mais à qui d'autre peut-on donner cette distinction si ce n'est à moi ?» On continue.
Et Aman répondit au roi « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte. et sur la tête duquel il pose une couronne royale.
Amen. Donc il a dit ce qu'il fallait faire pour quelqu'un qu'on doit honorer. Mais en lui-même, Aman disait que c'était lui. Vous voyez comment Dieu confond vos ennemis. Il va utiliser ton ennemi pour t'élever. Il va utiliser ton ennemi pour t'honorer. Mais quelle humiliation! On continue?
Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer.
Voilà, donc il dit tout ça au roi. Et il est content. Non mais, bien aimé, vous voyez comment Dieu confond nos ennemis. Vous voyez comment Dieu marche. Vous voyez comment Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas comme nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quand tu fais quelque chose, tu rends service à une personne, fais-le avec amour, sans rien attendre. Ne dis pas, mais si je lui rends ce service, qu'est-ce qu'il va me donner le jour? Ou bien le jour que toi tu seras dans le besoin, tu vas lui demander... voilà, je suis dans le besoin, est-ce que tu peux m'aider? Peut-être que ce jour-là, cette personne n'a rien. Et toi, tu vas commencer à dire, mais tu te rappelles quand tu étais dans le besoin, je t'avais aidé. Oui, tu m'avais aidé parce que tu pouvais, mais là, tu viens me demander, je ne peux pas. Donc, ne t'attends à rien. Ne t'attends à rien, attends-toi seulement à Dieu. Il te surprendra au-delà de tes espérances. Amen. On continue.
Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi et ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné.
Est-ce que vous entendez? Quelle honte, quelle humiliation. Et le roi dit quoi? Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Celui qui montait avant sur le cheval et lorsqu'il passait, tout le monde s'agenouillait, tout le monde baissait le visage. Aujourd'hui, c'est lui qui va promener. Oh my God! En plus, il va promener qui? Quelqu'un qui ne s'est jamais agenouillé devant lui. My God, on continue.
Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardoché. Il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. »
Regardez, il ne se limite pas seulement à le balader dans la cour, mais il doit répéter, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Bien, mais quelle humiliation! Il n'y a que Dieu qui peut humilier une personne qui est au-dessus de toi pour t'élever. Parce que les hommes vont dire, mais comment voulez-vous qu'on humilie? C'est le patron, on ne peut pas faire ça même s'il a tort et tout. Mais Dieu, il n'y a pas question de patron. C'est lui qui est le patron des patrons. S'il veut t'humilier, il t'humilie. S'il veut t'élever, il te lève. Mardoché a eu une distinction que Aman pensait que ça allait lui revenir. Mais Aman avait oublié que ce gars, ce monsieur qu'on appelle Mardoché, avait fait quelque chose de bien, quelque chose qui a sauvé le roi. Mais regardez, le roi était perturbé dans son sommeil. Il s'est dit, c'est pas normal que je sois perturbé comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y avait quelque chose. Ça, c'est Dieu qui a réveillé la mémoire du roi. Il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait. C'était de lever Mardoché. Parce qu'il avait évité la mort au roi. Et s'il a évité la mort au roi, il a aussi évité la mort à Esther. Parce qu'Esther était là pour une mission bien précise. Imaginez-vous que ces eunuques avaient eu l'opportunité d'aller le tuer le roi. C'est-à-dire qu'ils avaient la facilité. Si Mardoché n'avait pas intervenu, le roi Esther, le roi Assyrus et la reine Esther seraient morts. Et les Juifs auraient été exterminés. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Vous voyez, lorsque Dieu veut se manifester, lorsqu'il veut manifester sa gloire dans une situation, il va créer quelque chose qui va étonner les gens. Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Qui d'autre pouvait élever Mardoché si ce n'était pas Dieu? Alors là, Aman a eu la honte de sa vie. C'est comme ça que tes ennemis auront la honte de leur vie. Parce que Dieu va t'élever au milieu de ceux qui t'ont piétiné, au milieu de ceux qui ne croyaient pas en toi, au milieu de tous ceux qui t'ont méprisé. Dieu t'élèvera au milieu d'eux. Voilà pourquoi je dis, tes bienfaits parleront un jour en ta faveur. Amen. On continue.
Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée.
Forcément, parce qu'il avait dit quoi? Il avait dit à sa femme, à ses enfants, à ses amis que de faire et à ses serviteurs de faire comment on appelle ça? Il y avait un endroit où on devait pendre Mardoché. Donc c'était pour Mardoché. Il était content en disant que Dieu va, le roi va l'élever, tout, et que Mardoché, parce qu'il ne se met pas à genoux devant moi, il va être pendu. Mais il ne savait pas ce que Dieu avait décidé. Amen, on continue.
Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardoché, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Mm-hmm. Comme ils lui parlaient encore, les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé.
Amen. Parce que Esther avait demandé au roi, avait invité le roi. Elle avait dit au roi qu'il faut qu'il vienne avec Aman. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, Aman pensait que il allait au festin d'Esther, c'était pour recevoir quelque chose, pour recevoir des honneurs et tout. Mais ce n'était pas ça. Ce qu'il avait préparé pour Mardoché, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui-même qui a été pendu. C'est lui-même qui a préparé même comment est-ce qu'il allait mourir. Il pensait que c'était pour Mardoché, mais ce n'était pas pour Mardoché. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux. Il t'élèvera toujours. Il va t'élever. Faisons-lui tout simplement confiance. Vous voyez, lorsqu'on est malade, on dit, il est où Dieu? Lorsqu'on passe par une situation, on est endetté. Où il est où Dieu? Et pourtant, je le sers. Et pourtant, mais Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de tribulation dans nos vies. Dieu ne nous a jamais dit que ce serait un fleuve tranquille, un long fleuve tranquille. Non! Alléluia. Mardoché ne savait pas qu'il allait être aussi honoré. Il ne le savait pas. Pour lui, il a fait quelque chose de normal. Pour lui, c'était normal. Mais ce n'était pas normal. C'était plus que, c'est-à-dire que c'était plus que normal. Et Aman pensait qu'il allait être honoré. Vous imaginez un peu, c'est vous qui êtes le PDG d'une entreprise, et puis c'est-à-dire que le créateur de l'entreprise, on vient lui dire qu'il y a quelqu'un qui a voulu vous tuer et tout, mais regardez, cet employé-là vous a sauvé. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cet employé? Rien. Donc la chose reste comme ça. Et on pense que c'est terminé. Mais il est perturbé, parce que il se dit, mais quelqu'un qui m'a sauvé la vie, il ne peut pas rester comme ça. Il faut que je fasse quelque chose. Alléluia. Tout qui ne dort pas, il est perturbé parce qu'il y a un de ses serviteurs qui l'a sauvé et on n'a rien fait. Vous pensez que c'est son idée? Non, c'est Dieu qui lui dit, cette personne t'a sauvé la vie, il faut faire quelque chose. Là, c'est Dieu qui parle en ta faveur. Ce ne sont même pas les hommes, ce n'est même pas ton patron, c'est Dieu qui parle en ta faveur. Donc, bien-aimé, ne cesse pas de faire du bien. Il y a beaucoup de textes comme ça dans la Bible. Nous allons aller dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Mmh. À partir du verset 36 au verset 43.
Je lis la parole de Dieu avec respect.
Amen.
Il y avait à Jopé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'idée était près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main, il la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon.
Alléluia! Voilà cette dame Dorcas. Dorcas faisait tellement du bien que les gens ont refusé. Les gens ont refusé sa mort. Seigneur, tu ne peux pas nous prendre une femme aussi bonne, une femme qui nous coûte du bien, une femme aussi gentille, ce n'est pas possible. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu se glorifie toujours. Est-ce que vous pensez que Pierre, là où il était là pour rien? C'est que quelque chose dans la ville à côté devait se passer. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié, il fallait que Pierre vienne et ressuscite Dorcas. La parole de Dieu dit que beaucoup crurent. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va toujours créer quelque chose pour que son nom soit glorifié. Elles ont refusé, les gens ont refusé, les femmes ont refusé la mort de Dorcas. Non, cette femme ne peut pas partir comme ça. Seigneur, nous refusons sa mort. Alors, ton serviteur, ton disciple, Pierre est là, il faut qu'il vienne faire quelque chose. Vous voyez, un bienfait ne reste jamais sans réponse.
Amen.
Un bienfait ne reste jamais sans réponse. Je vous relis parce que cette histoire, elle est trop belle. Et il y a un autre passage aussi qu'on va encore lire. Vous allez comprendre que il y a des personnes qui tiennent tête à Dieu. Mais quand tu tiens tête à Dieu comme ça, ça veut dire que tu marches dans la nature. Ça veut dire que Dieu, j'ai toujours cru en toi. Je t'ai toujours fait confiance. Seigneur, tu veux que ton nom soit glorifié là. Père fait quelque chose. Il va faire parce qu'il sait que tu as toujours regardé à lui. Et il veut que son nom soit glorifié. Et il veut qu'on dépeuple le royaume de Satan. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il va se manifester. Et les gens vont dire, waouh! Oui, tout ce que Dieu fait nous laisse toujours comme ça. Waouh! Parce que ce qu'il fait est toujours étonnant. Alléluia! Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha. Cela, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. La parole de Dieu nous dit quoi? Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme l'île est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Ils ont prié Pierre de venir chez eux sans tarder parce que Tabitha n'était pas n'importe qui. Tabitha ne pouvait pas partir comme ça. Non, Seigneur, nous refusons. Pierre se leva et partit avec les hommes. Pierre n'a pas hésité. Pierre s'est levé. Oui, c'est que quelque chose devait se passer pour que le nom de Dieu soit glorifié. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre, regarde ce que Dorcas faisait. Regarde ce qu'elle faisait. C'est pas possible, elle ne peut pas partir. Fais quelque chose. Tu as marché avec Jésus, tu peux. L'Esprit de Jésus est en toi, tu peux. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Il a fait sortir tout le monde. Et là, il s'adressa à son Dieu. Père, glorifie ton nom. Toutes ces personnes te font confiance. Je ne suis pas venu ici et que quelque chose ne se passe pas. Il parlait avec son Dieu. Elle ouvrit les yeux. Il a dit quoi? La parole de Dieu dit, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Voilà un miracle. Vous voyez, un bienfait n'est jamais perdu. Un bienfait n'est jamais oublié. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. La parole de Dieu dit que cela fut connu de tout Joppé. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé et chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia! Nous allons prendre 1 Roi 17, verset 17 à 24.
Je lis la parole de Dieu avec respect. 1 Roi 17, verset 17 à 24. Yes. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve qui, chez qui j'ai été reçu comme un autre ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. »
Et nous allons lire 2 Rois 4.
Quel
2 Rois 4 à partir du verset 8 au verset 16.
Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez moi est un saint homme de Dieu. » Faisant une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ?» Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle ?» Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque de l'année prochaine, tu embrasseras ton fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Je continue.
Oui.
Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'apporta et l'emmena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses, je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Il lui dit, et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni Shabbat. » Et répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçue de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas ?» Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Érin, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point et il se leva et la suivit. » Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit.
Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ces deux histoires, de 1 Roi chapitre 17 et 2 Roi chapitre 4, des femmes qui ont rendu service au serviteur, au prophète Élie et au prophète Élisée. J'ai dit, tu ne peux pas faire du bien et que Dieu ne se souvienne pas de toi. Ces femmes ont accueilli chez elles des serviteurs de Dieu. Elles se sont empressées de vraiment pour que leur séjour, pour qu'ils soient à l'aise. Alléluia. Donc, la première, elle va voir Élie. Je vais relire. Après ces choses, l'office de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui la respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Alléluia. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Rappelez-vous que cette femme avait reçu Élie. Elle n'avait rien à manger. Élie lui a dit, fais ce que je te dis de faire et tu verras. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le peu d'huile qui lui restait, le peu de farine qui lui restait, elle a fait un gâteau. Parce qu'elle a dit que quand elle va finir de faire ça, son enfant et elle vont mourir. Mais Élie lui a dit, fais ce que je te dis de faire. Et la parole de Dieu nous dit que dans 1 Roi 17, au verset 10, la parole de Dieu dit que la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Et il s'avère que l'enfant de la femme tombe malade. Mais elle se dit, mais comment? Je t'ai reçu chez moi, je ne t'ai rien demandé. Comment mon enfant reste malade? Mon enfant est malade. Élie dit à Dieu que tu ne peux pas me faire ça. Cette femme m'a accueilli chez elle. Alléluia. Donc, le verset 18 dit, cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? J'étais bien reçu. Le peu que j'avais, j'ai partagé avec toi. Certes, la farine n'a plus manqué, l'huile n'a plus manqué. Mais pourquoi mon fils meurt? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçue comme un autre? Tu ne peux pas faire ça. Cette femme m'a reçue. Tu m'as envoyé chez cette femme à Sarepta. Aucune veuve en Israël. Tu ne m'as pas envoyé chez aucune veuve en Israël. Tu m'as envoyé chez elle, à Sarepta. Maintenant, tu tues son fils? Tu rends son fils malade? Non, ce n'est pas possible. Souviens-toi du bien qu'elle m'a fait. Elle m'a nourri. Elle n'avait rien dans sa maison. Le peu qu'elle avait, on a partagé avec. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Alléluia. Donc, cette femme de Sarepta avait fait quelque chose de bien. Elle ne comprenait pas qu'après avoir fait ça, son enfant tombe malade au point de mourir. Alléluia. Elle s'est dit, « Mais c'est qui cet homme de Dieu? Pourquoi il m'a fait ça ?» Mais l'homme de Dieu a parlé en sa faveur, en disant, « Éternel, tu ne peux pas faire ça, cette femme m'a nourri. » Alléluia. C'est comme la femme de 2 Rois 8, alléluia. 2 Rois 8, au verset 4, 2 Rois 4 plutôt, au verset 1, la parole de Dieu nous dit que, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée et disant, non, pas là. La résurrection, on a dit le verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. C'était une femme de distinction, cette Tsunamite. Elle s'est dit, c'est un homme de Dieu, je ne peux pas le recevoir comme n'importe qui. Il faudrait qu'il ait un endroit où il puisse prier tranquillement, où il puisse manger tranquillement. Donc, elle l'a fait parce qu'elle a reconnu en Élisée un homme de Dieu. Donc, elle propose cela à son mari. Et ils lui font une chambre haute. Alléluia. Et Élisée dit à son serviteur Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame? Et Géasi dit, elle n'a pas d'enfant. Et il lui dit, à cette même heure, à la même époque, tu enfanteras un fils. La femme qui dit, mais vu son âge et tout, comment elle peut faire un enfant? Mais rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Donc, le verset 13 dit, et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. La femme qui dit, attends, âgée comme je suis, comment je peux embrasser un fils? Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. La parole de Dieu nous dit que cette femme est tombée enceinte. Et la parole de Dieu nous dit aussi que cet enfant est tombé malade. Il était avec son père dans les champs, il est revenu, le père l'a ramené en disant l'enfant ne va pas bien. Il disait qu'il avait mal à la tête et l'enfant mourut. Et cette Tsunamite monta vers Élisée et lui dit, je t'ai rien demandé, qu'est-ce qui se passe et tout. L'Éternel n'avait pas montré ça à Élisée. Alléluia. Mais bien aimée dans le Seigneur, cette femme-là, elle devait être dans tous ses états. Elle s'est dit, moi, j'étais dans mon coin, tranquille, je n'ai rien demandé au Seigneur. J'ai juste voulu rendre service aux serviteurs de Dieu, mais je ne voulais rien en retour. Mais maintenant, ce que vous m'avez donné, vous le reprenez. Qu'est-ce qui se passe? Élisée aussi a dit à l'Éternel que non, tu ne peux pas faire ça. Cette femme-là s'est occupée de moi et tu prends son enfant. Dieu voulait encore manifester sa gloire. Donc, bien aimée, quel que soit le temps, si tu as fait quelque chose de bon cœur, pas pour que les gens, pas pour te montrer devant les gens, parce que Dieu, il sonde les cœurs. Donc, si tu l'as fait de bon cœur, Dieu saura que le bienfait a été fait avec amour. Élisée est repartie chez la dame. Il a fait ce que l'Éternel lui a dit de faire. Et l'enfant est ressuscité. Il a pris l'enfant, il est venu donner l'enfant à sa mère. Tu pleures aujourd'hui parce que tu te dis, j'ai trop rendu service aux gens. Mais non, arrête de dire ça. Si tu as rendu service, que tu as pu, c'est Dieu qui t'a utilisé. Pour... C'est-à-dire que sois content quand tu rends service à une personne. Tu te dis, j'ai pu le faire, j'ai pu le... Des fois, tu regardes tes moyens, tu n'as pas, tu te dis, mais comment est-ce que Dieu a permis que je rende service à cette personne? Comment Dieu a permis que je puisse faire ça? C'est-à-dire que ton corps doit être dans la joie parce que tu dis, tu glorifies, tu dis, Dieu, tu dis, merci Seigneur, j'ai pu le faire. Mais tu ne t'attends à rien de cette personne. Et un jour, oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu n'oublie pas ses enfants, il n'oublie pas ceux qui le cherchent. Non, jamais. Et quand tu fais quelque chose, ça veut dire que tu fais comme si tu n'avais rien fait. Tu continues ton chemin tout simplement. Mais au-dedans de toi, tu es content parce que tu as fait quelque chose. Tu te dis, merci Seigneur, j'ai rendu service, c'est pas de toi, c'est que... Sois content parce que tu as été le canal par qui Dieu est passé pour faire cette chose. Aujourd'hui, tu pleures, tu es en train... C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne se parlent plus parce que tu as aidé ton ami et que le jour où tu étais dans le besoin, ton ami n'a pas pu te rendre service. Tu gardes dent à la personne, tu ne parles plus à la personne. Tu t'imagines une amitié de 20 ans parce que l'autre n'a pas pu t'aider quand tu étais dans le besoin. C'est fini. Vous vous séparez comme ça et vous êtes fâchés. Que cela ne soit pas ton partage. Attends-toi toujours à Dieu. Ne t'attends pas aux hommes. Les hommes ont les mêmes problèmes que toi. Donc, attends-toi à Dieu. Est-ce que Tabitha pouvait penser? Elle est morte, elle ne voit plus rien, n'entend plus rien. Est-ce qu'elle pouvait savoir ce qui s'est passé après sa mort? Mais ce sont ses œuvres qui ont parlé. Ses œuvres ont parlé. Et à cause de la résurrection, ou grâce à la résurrection de Tabitha, les gens ont cru au Seigneur. Est-ce que vous voyez un peu les bienfaits de tes bienfaits? Est-ce que tu vois ça? Dieu est merveilleux. Mais quand tu réussis à faire quelque chose qui dépasse ton entendement, tu t'assois et tu regardes le ciel, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que de moi-même, je n'aurais pas pu.
Amen.
Alléluia. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Il y a des gens qui vivent la gloire de Dieu tous les jours par leur obéissance. Des personnes qui rendent service mais qui ne s'attendent à rien, juste au Seigneur. Et ces personnes vivent ces réalités. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est vivant, il est tout puissant. Jésus n'est pas resté sur la croix, Jésus est ressuscité. Donc ce que tu vis là, il est capable de ressusciter ça. Aujourd'hui, tu es là, tu n'as rien à manger. Rends grâce à Dieu, tout simplement. Le fait de rendre grâce à Dieu, il va te surprendre. Mais quand tu es là, tu dis, oui, si j'appelle telle personne, ça veut dire que tu t'appuies sur les hommes au lieu de t'appuyer sur Dieu. C'est Dieu qui va toucher les hommes pour venir te donner ce que tu veux. Mais aie ton regard sur Dieu. Regardez ces femmes. Elles pensaient que leur fils n'allait plus ressusciter. Elles se disaient, mais attendez, on a rendu service aux serviteurs de Dieu, et puis Dieu n'a pas vu ça. Dieu prend nos enfants. Non! Elles ne se sont pas adressées à Dieu. Elles se sont adressées aux serviteurs. Et les serviteurs se sont adressés à Dieu. Et Dieu a manifesté sa gloire. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Donc arrête de pleurer. Arrête de dire, c'est toujours moi qui rends service. C'est toujours moi qui rends service. Non. Regardez le cas de Mardoché. Il a évité la mort du roi. Il a continué son chemin. Une chose, c'est que Mardoché ne pouvait pas se mettre à genoux, baisser sa tête devant Aman. Ça, non. Il recevait le soufflet d'Aman. Il a dit, moi, je ne peux pas. Moi, j'adore qu'un seul Dieu. Je me prosterne qu'après devant un seul Dieu. Pour lui, c'était ça. Il était là. Et puis, il surveillait sa nièce. Mais il ne savait pas qu'il allait avoir cette distinction de la part du roi. Alléluia. Et Esther, tout ce qu'elle a demandé au roi, lui a été accordé. Aman qui voulait voir le peuple d'Israël exterminé, c'est lui-même qui est mort. C'est lui-même qui est mort. Ses enfants, la même chose. Et dans toute l'histoire, Mardoché et Esther sont sortis vainqueurs. Le peuple d'Israël n'a pas été exterminé. Bien aimé, laissons Dieu agir dans nos vies. Laissons Dieu, il agit en son temps et il agit comme il veut. Arrêtons de dire, il est où Dieu? Voilà ce que je vis, il est où Dieu? Il est Dieu, on dit qu'il est Dieu, mais pourquoi il n'arrête pas ça? Pourquoi il ne me guérit pas? Il voit les incendies, pourquoi il n'arrête pas les incendies? Mais on aime accuser, il est où Dieu? Quand Dieu nous dit, regardez en moi, on regarde à Dieu? Non. Quand Dieu nous dit, ne faites pas ça, est-ce qu'on obéit à Dieu? Non. Et donc ça, ce sont les conséquences de notre désobéissance. Aujourd'hui, beaucoup de gens regardent à Dieu, pas pour glorifier le nom de Dieu, mais pour accuser Dieu. Vous priez, vous priez, vos prières ne montent pas. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait des incendies? Regardez toutes les maisons, regardez comment on parle à celui qui a créé l'univers. Regardez comment on lui parle. Mais on oublie que nous sommes des personnes exécrables, des personnes désobéissantes. Nous faisons des choses selon nous-mêmes. Et Dieu nous regarde. Et tu connais les conséquences de ta désobéissance? Eh bien, c'est ça. Dieu ne peut pas nous avoir créés et nous vouloir du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Non! Non! Quand il a créé le monde là, tout était parfait. Il n'y avait pas le mal. On ne savait pas ce que c'était que le mal. Tout était parfait, parfait. Après, ben, il y a eu la désobéissance. Et mais c'est cette désobéissance-là qui continue à nous poursuivre. C'est, les conséquences nous poursuivent toujours. Mais nous cherchons Dieu. Ça, c'était dans le jardin d'Éden, ça s'est fait. Mais est-ce qu'on doit continuer à demeurer dans le péché? Non. Marchons selon la parole de Dieu. On est toujours, oh, le temps de la grâce, le temps de la grâce ne te donne pas le droit de voler, de mentir, de faire n'importe quoi, d'accuser Dieu, non. Mais cherche Dieu dans ton intimité, avec un cœur sincère. Ah, c'est pas facile avec les temps qui courent. Eh bien oui, les temps qui courent, les temps sont mauvais, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher Dieu, nous devons rester devant sa présence. Et quand tu dis aux gens, non, rester devant sa présence, oh, ça veut dire qu'on ne peut plus s'amuser. Les gars, mais tu veux que Dieu manifeste sa gloire dans ta vie? Toi, tu viens me parler d'amusement? Est-ce que Dieu a dit que tu ne peux plus t'amuser? Est-ce que Dieu a dit que tu ne peux pas suivre les films, hormis les films chrétiens? Est-ce que Dieu a dit ça? Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir où tu places Dieu. Il doit toujours être en premier en toutes choses. Dieu ne nous a pas... Il dit dans sa parole que tout est permis, hein, tout est... Tout est permis, et voilà, tout est permis, et tout n'est pas utile. Tu peux faire tout, mais tu sais où sont tes limites? Tu sais que là, là, j'ai dépassé les bornes, ça va pas plaire à Dieu, mais tu recules. Mais tu peux pas t'enfoncer dans la mauvaise route. Tu prends le mauvais chemin et tu t'enfonces, tu sais, et putain, vous savez, le mot on pêche consciemment. On sait que c'est pas bien, il faut que je vais demander pardon à Dieu, et il va me pardonner. Et parce que Dieu va te pardonner, ça te donne le droit de t'enfoncer dans le péché. Et quand il va t'arriver quelque chose, il dit, mais Dieu savait, il est Dieu, non, il aurait pu m'arrêter. Mais il t'a arrêté. Il t'a parlé. Tu voulais quoi? Qu'il te parle face à face? Il t'a montré des choses pour que tu ne puisses pas te dévier. Mais tu te dévies. Changeons de langage. Dieu ne peut pas vouloir du mal à ses enfants. Si Dieu permet que ton ennemi t'attaque, c'est toi-même, c'est ta désobéissance qui a fait en sorte que tu as ouvert la porte et puis tes ennemis vont t'attaquer et puis tes ennemis auront la victoire sur toi. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Tu es seul, tu veux provoquer un groupe de 10 personnes. Tu dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Mais attends, il nous a donné la sagesse. Tu es seul. Et il y a 10 personnes. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu ne fuis pas. Tu dis, non, Dieu est avec moi. Dieu, il est devant moi. Mais Dieu te dit, tu ne peux pas. Rebrousse chemin. Tu ne peux pas devant ces personnes-là. Évite-les, puisque tu peux les éviter. Évite-les. Toi, tu dis, non, moi, je fonce. Jésus aussi a fui, hein, quand il a vu que les gens venaient vers lui, il s'est dispersé là et tout. Mais non, même Jésus est parti sur... Toi, tu veux rester là sur le chemin, devant, tu es là, tu dis, oui, moi j'ai Dieu en moi, j'ai Dieu en moi. Mais Dieu te regarde, Dieu te dit, mais cet enfant est inconscient. Je suis avec toi. Comme je suis avec toi, je te dis, ne fonce pas vers ce groupe-là, tu ne pourras rien faire. Alors, va vers la gauche et puis, tu t'en vas. Non. On est inconscient, on veut faire comme nous, comme on veut, et puis après on dit, mais Dieu est où? Bien, tu pries pour quelqu'un, je vais prier pour toi, parce que bon, Dieu me demande de prier pour toi. Je prie, après tu m'appelles, tu me dis, mais tu as prié pour moi, ça n'a rien fait. Je ne suis pas Dieu. Si déjà tu es négatif, que la parole de Dieu ne peut pas agir dans ta vie, on prie pour toi, tu es là. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Moi, il y a une personne qui m'a dit... Des fois, Dieu te dit, ferme ta bouche, ne réponds pas. J'ai dit, je vais prier pour toi. Ah, depuis que tu pries, les migraines ne passent pas. Non, garde tes prières pour toi. J'ai dit, ok, que Dieu te bénisse. Comment tu reçois la prière? Quand on vient prier, et puis tu es déjà négatif. Toi, tu peux dire, Seigneur, quel que soit... Son attitude, Seigneur, guérit la personne. Dieu va te guérir. Il est Dieu. Comme il peut aussi ne pas te guérir, ça ne veut pas dire qu'il est incapable. Mais ton, c'est-à-dire que ta désobéissance, ton incrédulité n'ouvre pas la porte pour que Dieu puisse entrer et puis faire quelque chose de bien avec toi. Il frappe à ta porte, tu l'as tendu sur le cœur, tendu. Et le moment que tu ouvres la porte, là, c'est trop tard. Dieu regarde le cœur, hein, bien, mais Dieu ne vient pas siéger dans un cœur où il voit qu'il y a la haine, il y a la jalousie, il y a le mépris. Jamais. On dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. On dit bien Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va habiter dans un cœur. Oh, le Saint-Esprit en moi, hein, le Saint-Esprit me parle. Mais tu n'as pas besoin de dire que le Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas besoin de dire que le Saint-Esprit te parle. On voit tes fruits, on voit comment tu es. On sait que cette personne a la crainte de Dieu. Mais Dieu ne va pas crier, moi je crains Dieu. Qui t'a dit le contraire? Si tu crains Dieu, eh bien, c'est bien si tu crains Dieu. Si le Saint-Esprit habite en toi, c'est bien si le Saint-Esprit habite en toi. Mais tu as besoin de crier sur les toits. Bien, mais l'humilité doit être notre partage. L'humilité doit être notre partage. Tu rends service à quelqu'un, amène gloire à Dieu. Au contraire, tu dois te dire que Seigneur, je te bénis parce que j'ai été le canal par qui tu es passé pour parler à cette personne, pour aider cette personne, voilà, pour tenir compagnie à cette personne parce que elle est seule et tout, donc elle a besoin de quelqu'un pour parler. Et puis Dieu t'utilise. Dieu ne t'utilise pas seulement pour aller donner quelque chose, hein. Des fois juste pour parler avec la personne. Il y a des personnes qui sont seules, mais qui aimeraient une compagnie. Et peut-être que tu es cette compagnie que Dieu a choisie pour cette personne. Mais c'est une grâce. Vous voulez quoi? Tu dis, oh, Dieu m'a béni. Ah oui, il t'a béni de quoi? Mais il a permis que je parle avec cette personne que tout le monde évitait. C'est ça la bénédiction. Oui, c'est ça la bénédiction. Tu sais que tu te sens utile. Que Dieu t'ait choisi pour cette personne. Tout le monde passe, elle a envie de parler, mais personne. Et Dieu te dit, mon enfant, va parler à cette personne. Tu te dis, oh, mais toutes les personnes qui sont passées, mais tu es contente. Non, mais vous voulez les maisons, les voitures, les voyages, les habits de mort. C'est-à-dire que quand on vous passe, on dit, waouh, ça c'est l'homme qui va te dire, waouh. Mais ce n'est pas Dieu. Dieu va te dire, waouh, quand tu obéis à ce qu'il te dit. Et il te dit, oui. Donc, bien aimé dans le Seigneur, un bienfait n'est jamais perdu. Tes bienfaits, un jour, parleront en ta faveur. Tu fais ça parce que tu aimes qui? Tu aimes Jésus. Tu dis, parce que je fais ça parce que j'aime Jésus. Je sais que Jésus m'aime. Alors, tu fais les choses avec la joie. Jésus t'aime. Jésus nous aime, bien aimé. Jésus nous aime. Mais ce que on ne prend pas, on n'est pas conscient de ça. Alléluia. J'aimerais te dire ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc fais attention à ta manière dont tu marches avec Dieu. Dieu ne t'a pas interdit de t'amuser. Dieu ne t'a pas interdit de regarder les films qui ne sont pas chrétiens. Non, mais Dieu nous parle à travers beaucoup de choses. On est tellement spirituel que lorsque tu as une personne qui va suivre un film du monde, mais comment tu es chrétien? Tu suis encore... Dieu t'a interdit? Deux fois, Dieu peut te parler à travers un film non chrétien.
Oh oui.
Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu marches avec des gens qui ne sont pas chrétiens. Comment tu peux marcher avec des incrédules? Mais Dieu peut te parler au travers de ces personnes. Dieu peut te faire découvrir des choses au travers de ces personnes. Alors toi qui es trop spirituel, change. Je ne te dis pas d'abandonner Dieu. Mais sors du jugement. Sors du jugement. Mettons Dieu toujours en premier dans tout ce que nous faisons. Tu regardes la télé, à un temps tu dis, bon, il y a un temps pour tout. Là, c'est un temps pour mon Dieu. Là, c'est... Il y a un temps de loisir. Il y a un temps de loisir. Regardez, une journée à 24 heures. On dort 8 heures. On a 8 heures de travail. Ça fait 16. Alléluia. Après, les autres 8 heures là, tu fais ton ménage, tu fais la cuisine, tu prends du temps avec ton mari, tu prends du temps avec ta femme, avec tes enfants, vous regardez un film, vous allez faire des petits choses, du shopping et tout. Voilà, tout est partagé. Ça ne veut pas dire que dans les 8 heures là où tu dois faire ton shopping et tout, tu te dis, bon, j'ai 8 heures là, j'ai peut-être 2 heures ou 3 heures pour mon Dieu, tu es avec ton Dieu. Après, les autres 5 heures, ben, tu te balades, tu fais ce que tu as à faire. On t'a pas dit de rester 24, 24. Ben, si tu veux un jour rester 24, 24, 24 heures avec ton Dieu, il n'y a pas de problème. Tu prends tout ton temps, il n'y a pas de problème. Même des jours et des jours, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne t'a pas interdit de t'amuser. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, mon message, c'était que ne te dis pas que Dieu t'a oublié. Peut-être que tu as fait quelque chose de bien. Et tu te dis, amen, amen, Alissa, que Dieu te bénisse. Et tu te dis, Dieu m'a oublié. Non, Dieu agit en son temps. Dieu n'oublie, bien aimé, Dieu n'oublie pas. J'ai une amie qui aime dire toujours, Jésus t'aime. Si Jésus t'aime, il ne peut que te vouloir du bien. Alors mets ça dans ta tête, dis Jésus m'aime, et obéis à Dieu, marche comme Jésus te dit de marcher. Mais Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il y a des moments où tu es découragé, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne viendra te dire, relève-toi, je suis avec toi. Non, tu es découragé, les gens vont te regarder, oh, mais toi tu es toujours découragé. Mais Jésus, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut que tu aies la paix, parce qu'il veut que tu aies le sourire, je vais te dire, je t'aime. Ne sois pas découragé. Je suis avec toi. Et puis tu avances. La mauvaise humeur que tu avais est partie. Il t'a rempli de paix. Il t'a rempli de joie. Et tu souris. Et tu parles avec assurance. Tu parles avec amour. Tu parles avec sourire. Regardez un peu. Quand on te dit que Jésus t'aime, c'est pas banal, hein? C'est pas banal. Parce que, regardez, bien aimé dans le Seigneur, on va terminer. Tu es là, tu n'as rien. Les gens se moquent de toi. Personne ne veut même te parler. Tu t'appelles Rachel, on va te dire, oh, mais celle-là, tu l'as bien passée. On oublie même comment tu t'appelles. Quel mépris. Et puis on vient te dire, quelqu'un sort de nulle part, vient te dire, Jésus t'aime. Tu vas dire, quoi? Comment ça, Jésus m'aime? Tout le monde m'a abandonné, tout le monde me traite de tous les noms. Et tu me dis, mais oui, Jésus est venu pour toi. Qui est abandonné, qui est humilié, qui est rejeté, parce qu'il veut manifester sa gloire avec toi. Jésus est venu pour toi. Jésus n'est pas venu pour les orgueilleux. Il nous a tous créés, mais il y a des gens qui ont choisi leur camp. Et toi, tu es là. Et moi, je t'ai dit ce matin que je suis le canal par qui Dieu est passé pour te dire que Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a parlé ce matin. Dieu veut que il veut que nous soyons fortifiés. Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons le regard sur lui. Parce que c'est lui qui va nous élever. Parce que c'est lui qui va nous donner ce que nous avons besoin. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Donc, tu fais du bien, continue à faire du bien. Un jour, tu seras récompensé. Mais ne te dis pas, je fais ça pour que j'aie quelque chose en retour. Non. Fais parce que tu peux, parce que tu veux, et puis tu continues. Si la personne te dit merci, amen. La personne ne te dit pas merci, tu dis aussi amen. Tu dis, moi, je ne travaille pas pour les hommes. Je travaille pour mon Père. Et c'est mon travail d'aider les autres. Et je sais que mon rémunérateur, il est dans le ciel. Et puis tu avances. Amen. Alors, aimons-nous les uns les autres. Et aimons-nous vivants. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie vraiment que ton cœur soit toujours ouvert, l'Éternel des armées, et que tu lui dises toujours, Seigneur, je t'aime. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Et je reconnais que sans toi, je ne peux rien. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, bénis toutes les personnes qui se sont connectées. Je te recommande Alissa et tout le groupe des États-Unis. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un honneur pour moi de voir Alissa Catalan, sage, connecté depuis les États-Unis, et vous savez qu'on a un grand écart. Il y a quand même, comment on appelle ça?
9 heures de décalage.
Alléluia. Alissa, que Dieu te bénisse abondamment, qu'il bénisse le groupe des États-Unis là-bas. Et voilà. Mes salutations à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était votre humble servante, le prophète Jérémie du ministère des enfants perdus. Nous arrivons à la fin de notre culte et nous rendons grâce à Dieu pour son amour, pour ses bontés, ses bienfaits. Et nous ne tarissons pas d'éloges pour notre Dieu, car il est toujours là avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.